Il s'appelle Pierre-Olivier Labbé, cet homo sapiens de 42 ans a vécu une expérience totalement inouïe. Il vient de passer 90 jours sans internet. Oui, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, 3 mois sans accéder à son smartphone, à ses mails, aux réseaux sociaux, fini les likes, les notifications, les vidéos de cascade sur Facebook et les Skype en famille. Ce gars est un véritable extraterrestre. À l'origine de cette décision, une addiction aux technologies numériques. Pierre-Olivier Labbé a filmé son expérience de digital détox pour Canal+. Et sera notre invité dans un instant avec le psychologue clinicien Jean-Pierre Coutron et le sociologue Antonio Casilli. Vous pouvez nous envoyer bien sûr vos messages, vos témoignages sur la déconnexion à internet dès maintenant, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, l'essai clinique français Hypergay qui grâce à un antirétroviral a permis de réduire de 86% le risque d'infection par le virus du sida chez les hommes homosexuels. Faut-il pour autant considérer ce médicament comme une méthode de prévention? On en parle dans un instant avec nos invités. Céline Hilar réalise cette nouvelle Tête au carré qui a été préparée par Fanny Cohen-Moreau avec Axel Villard.
La Tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Pierre-Olivier Labbé, Jean-Pierre Coutron et Antonio Casilli, bonjour.
Bonjour
à tous les trois.
Bonjour.
On va donc parler avec vous de l'abstinence 2.0, de l'addiction numérique. Pierre-Olivier Labbé, 90 jours sans internet, c'est donc possible?
C'est compliqué, mais c'est possible.
Vous y êtes parvenu facilement ou pas?
Dans un premier temps, plutôt facilement, très vite, c'est compliqué de vivre aujourd'hui sans, pour plein de raisons qu'on évoquera sans doute.
Oui, c'est ce que vous montrez dans ce documentaire. C'était suite à un ras-le-bol, on va dire, un trop-plein de connexions?
Juste une impression de crouler en permanence sous un flux d'informations incessant et effectivement une sorte de vrai ras-le-bol.
Jean-Pierre Coutron, vous êtes président de la Fédération Addiction. Est-ce que le problème de l'hyperconnexion ne serait pas devenu une maladie de civilisation aujourd'hui? Parce qu'on se sent assez concerné quand on voit le documentaire quand même de Pierre-Olivier Labbé.
Alors il faudrait être très prudent quand on dit maladie de civilisation, parce qu'on ramène le mot maladie dans quelque chose qui n'est pas forcément classiquement une maladie, alors que ça signale que nous avons en ce moment des difficultés pour nous adapter à des nouvelles façons de vivre certainement.
Vous n'iriez pas jusqu'à parler d'une pathologie alors?
Eh bien, bien qu'étant président d'une fédération professionnelle, je n'irai pas jusqu'à parler d'une pathologie.
Bon, bah c'est intéressant, on va en discuter avec vous dans quelques instants. Antonio Casilli, est-ce que les jeunes qui sont nés avec Internet sont les plus touchés aujourd'hui par l'hyperconnexion? Qu'en dit le sociologue?
Au contraire, je pense que les personnes qui sont plus concernées par le trop de connexion sont souvent des personnes, comme vous l'avez décrit, des homo sapiens d'une quarantaine d'années, et qui en plus sont des professionnels de la visibilité, c'est-à-dire des personnes qui travaillent dans des milieux médiatiques et qui ont un intérêt particulier à être présent sur Internet ou avoir une certaine visibilité et qui, à un certain moment, module cette visibilité en disant « là, je stoppe ». Mais je stoppe pour une période très précise, 90 jours dans votre cas, mais dans d'autres cas qu'on a connus, voilà, c'était pour des périodes encore plus limitées et après on revient.
Et c'est encore pire.
Parfois, c'est encore pire.
En général. Allez, Digital Detox, comment j'ai vécu 90 jours sans Internet? C'est un documentaire à voir ce soir à 20h50 sur Canal+. Et on en parle dans quelques minutes avec vos messages sur le site de l'émission. À la une de la science aujourd'hui, une étude française présentée hier à Seattle qui montre que le Truvada, un antirétroviral, s'avère très efficace comme moyen de prévention de l'infection VIH chez les populations d'hommes homosexuels. Willy Rosenboom, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes professeur de maladies infectieuses et ancien président du Conseil national du sida. Vous êtes l'un des chercheurs français ayant participé à cette étude Hypergay pour l'ANRS. Et puis nous sommes également en ligne depuis Seattle avec Jean-Daniel Flézaquier, journaliste santé pour France 2. Bonjour à vous Jean-Daniel.
Bonjour Mathieu et bonjour à Willy.
Et nous sommes en pleine nuit chez vous sur la
côte. Il est 5h du matin, j'allais presque me lever.
Vous avez suivi les résultats présentés donc à l'occasion de la 22e conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes. Willy Rosenboom, les résultats de cette étude Hypergay sont impressionnants. 86% de réduction du risque de contamination. Est-ce que vous pouvez quand même nous préciser les conditions dans lesquelles ont été menés les essais?
Ça a été fait dans le cadre classique des essais avec... une population qui a reçu le traitement comparée à une population qui a reçu un placebo. Et dans les deux cas, il y avait un accompagnement psychosocial, on va dire, associatif d'ailleurs, pour permettre que les comportements continuent à être adaptés et avec le maximum de moyens mis à disposition de ces deux populations, placebo ou traitement. qui recevaient des conseils de prévention.
Quel était le profil donc des personnes, des hommes qui ont participé à cet essai?
Oui, là il s'agissait d'hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, et la raison principale du choix de cette population, c'est que dans cette population, le pourcentage de personnes contaminées et le pourcentage de nouvelles contaminations reste très élevé, en tout cas en France. Mais il y a des essais qui sont faits dans des populations hétérosexuelles avec le même type de procédure dans d'autres pays.
Et donc les résultats, Willy Rosenbaum, après un suivi de 13 mois, c'est ça?
C'est ça. Donc 86% de prévention de contamination est évitée, ce qui est un résultat tout à fait spectaculaire, presque inattendu, puisque là, ce qu'on testait, ce n'est pas tant l'intérêt du traitement, puisqu'il y avait déjà eu des essais sur cet intérêt du traitement, mais la manière dont il était dispensé, c'est-à-dire qu'il était là dispensé à la demande, et c'est le premier essai de ce type-là, alors que d'habitude, ce traitement était administré de manière continue. Et jusqu'à présent, on n'avait pas observé de si bons résultats avec ce type de technique, pour la simple raison que prendre un traitement en permanence crée des problèmes de ce qu'on appelle observance, d'adhésion au traitement. C'est-à-dire on peut commencer à prendre ce traitement tous les jours à un moment, puis après on oublie ou on en prend moins. Alors qu'en prenant le traitement à la demande, on observe que l'observance, l'adhésion à cette technique de traitement à la demande est meilleure. Et donc, le résultat est meilleur.
Voilà, donc 86% de diminution du risque sur des personnes ayant eu des rapports sexuels non protégés, évidemment. Jean-Daniel Flézaquier, comment est accueillie l'annonce de cette étude à Seattle?
Bon alors, bien évidemment, comme c'est une étude extrêmement positive et que jusque-là, comme le rappelait Willy Rosenbaum, les études visant cette population étaient très mal suivi par les personnes impliquées. Évidemment, tout le monde est content, d'autant qu'une étude anglaise qui s'appelle Proud, qui est un petit peu différente dans son principe, montre les mêmes résultats, je dirais favorables, et puis les mêmes petits problèmes qu'on constate en analysant cette étude.
Quelles sont les réserves, selon vous, de cette étude, Jean-Daniel Flézaquier, lorsque vous la lisez dans tous ses détails?
Il y a surtout d'abord des informations qui sont un petit peu inquiétantes. Je dirais, les auteurs, par exemple, pensaient qu'en suivant cette population, ils verraient 3% par an de nouvelles infections. On en est pratiquement à 7, et quand on considère uniquement le Paris, c'est-à-dire un des 7 centres, à Paris, on est à 9% de nouvelles contaminations dans cette population qui n'est pas une population gay tout venant. Il faut bien le répéter, ce sont des gens qui avaient en moyenne 8 partenaires dans les 2 mois qui précédaient l'enquête. Donc ce n'est quand même pas des couples stables qui renoncent à la capacité. Ce sont quand même des gens qui choisissent un mode de vie tout à fait consciemment en oubliant le préservatif. Et puis surtout, toute population encore confondue dans cette étude, un tiers de maladies sexuellement transmissibles constatées parce qu'il y avait un très bon suivi. Et donc ça pose aussi des problèmes quand on voit que les messages d'information passent mal. Et puis il va s'en poser un autre qui, je dirais, est plus économico-sociétal. Est-ce qu'on peut parler de traitement? C'est pas franchement un traitement, c'est une prévention un peu comme, je dirais, d'une certaine façon, comme quand on prend un médicament contre le paludisme quand on va voyager. Est-ce que on considère qu'il s'agit d'un traitement ou est-ce qu'il s'agit, non, je dirais pas d'une convenance parce que le mot serait énorme, mais enfin c'est quand même une méthode de prévention qui à base d'un médicament destiné à soigner les personnes aujourd'hui infectées par le VIH, et là on le donne à des gens qui ne sont pas infectés parce que ces gens renoncent à un moyen qui est le moyen le plus sûr, qui est le préservatif. Ça va pour... Je pense que certains mouvements qu'on a vu manifester contre le mariage pour tous et d'autres vont certainement se réveiller si on parle de remboursement, par exemple.
Alors, Willy Rosenbaum, il y a plusieurs points très intéressants soulevés par Jean-Daniel Fizaki. D'abord, l'augmentation de 9% de nouvelles contaminations pour Paris.
Oui, écoutez, c'est une surprise, mais je rappelle que ça, ces 9%, c'est justement dans le groupe placebo. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas reçu ce médicament, ce produit. Donc c'est une raison de plus pour être optimiste, c'est-à-dire qu'on a réduit considérablement chez ceux qui prenaient, à qui on a proposé cette médication, et donc c'est une raison de plus d'être, je dirais, optimiste quand à l'intérêt de cette médication. Oui, il y a eu d'autres maladies sexuellement transmissibles, mais là aussi, on peut dire que la surveillance nécessite ce traitement, le fait de se dépister systématiquement avant de le prescrire, qui est aussi un mode de prévention de l'infection par le VIH, sont autant d'éléments qui permettent, un, d'imaginer qu'on va contrôler les infections sexuellement transmissibles. Plus on dépiste tôt l'infection, plus on traite tôt, plus on interrompt la chaîne de transmission. Et donc, ça a un effet de santé publique qui est tout à fait intéressant.
Et puis, Willy Rosenbaum, justement, sur la plus-value du Truvada par rapport au préservatif, et sur le coût aussi du traitement du Truvada, je crois que ça coûte 500 euros, c'est ça, la boîte de 30 comprimés ?
Oui, écoutez, actuellement, effectivement, ce problème du prix est un sujet qui doit être mis sur la table et qui va être discuté dans les semaines qui viennent. Par la Haute Autorité de Santé. Je rappelle qu'aux États-Unis, les Américains promeuvent cette...
Est-ce que c'est Willy Rosenbaum qui nous a quittés ?
Apparemment, moi je suis toujours là.
Apparemment, voilà. La ligne est meilleure avec Seattle, ce qui est quand même incroyable, alors que Willy Rosenbaum est dans les rues de Paris en ce moment.
De Amiens, vous savez.
Voilà, on va peut-être conclure avec vous, Jean-Daniel Flesacré, sur évidemment les discussions qui ne manqueront pas aussi de suivre les questions éthiques aussi autour de cette étude.
Il y en a une qui est d'abord assez importante. Enfin, je voudrais juste donner une petite précision. Willy Rosenbaum parlait du suivi. Et là, on était sur 200 personnes. Si le produit passe sur des milliers de personnes, on n'aura pas les moyens de faire un service après-vente comme il était fait là. C'est assez exceptionnel. Cette étude est assez exceptionnelle par la brillante conception. Mais elle est sur 400 personnes. Pardon, pas 200, 400. Donc, c'est pas la même chose que la vie réelle. D'autre part, il faut faire très attention. Et les auteurs, notamment Jean-Michel Molina, ont beaucoup insisté là-dessus. Il faut éviter toute extrapolation en particulier envers les femmes, parce que les résultats là ne concernent que des hommes et que les dosages, que toutes les techniques de dosage montrent que le produit est extrêmement concentré quand on mesure dans la muqueuse du rectum, est 10 fois, 100 fois plus concentré que dans le vagin. Donc on ne peut absolument pas aujourd'hui dire que cette méthode sera efficace chez tout le monde et en particulier chez les femmes. Il faut faire très attention à une généralisation excessive parce qu'on n'en est vraiment qu'au début.
Voilà, Willy Rosenbaum, on vous a retrouvé. On conclut là-dessus très très vite.
Oui, c'est vrai qu'il y a à démontrer que chez les femmes, ça fonctionne, mais il y a eu des essais qui étaient acceptables. Et il ne faut pas oublier que cette technique, c'est une preuve de concept et que d'autres produits sont en train d'être testés et que c'est une méthode complémentaire de toutes les autres méthodes de prévention.
Dont le préservatif.
Dont le préservatif, bien entendu, mais comme vous le savez sans doute, le préservatif n'est pas utilisé dans toutes les circonstances. Et il faut offrir le choix aux gens. Quand il y a plusieurs méthodes de prévention, ça marche toujours mieux que quand il n'y en a qu'une.
Merci en tout cas à tous les deux, Willy Rosenbaum donc à Paris et Jean-Daniel Flesacquier donc à Seattle, où est annoncé donc hier les résultats donc de cet essai ANRS Hyper-Gay. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis en bref, dans le reste de l'actualité, donner des cacahuètes aux bébés réduirait les risques d'allergie. Selon une étude britannique, seulement 1% des jeunes enfants consommant des arachides ont développé une allergie contre 17% des jeunes qui en étaient privés. Les chercheurs soulignent toutefois que les jeunes enfants avec de l'eczéma ou une allergie à l'œuf doivent être examinés par un médecin avant de consommer de l'arachide. Une nouvelle espèce de dragon de mer découverte au large de l'Australie. Des chercheurs américains ont baptisé ces poissons marins proches des hippocampes dragons de mer rubis à cause de leur couleur rouge vif. Ils ont analysé un spécimen collecté en 2007 et ont réalisé un modèle 3D rotatif de son anatomie. Vous pourrez trouver la vidéo sur la page Facebook de La Tête au Carré. Et puis enfin, le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, change de directeur. L'Indien Rajendra Pachauri, 74 ans, a démissionné. Il était en poste depuis 2002. Cette annonce fait suite à une plainte pour harcèlement sexuel déposée par une de ses collègues. Allez, on déconnecte du numérique dans un instant.
Bed, all crocodiles, oh, well. The lights snap walk like an Egyptian.
Et The Bengals à l'instant sur France Inter.
Chers amis Facebook, certains d'entre vous le savent déjà, les autres non. Je me lance dans une expérience hors du commun, un défi un peu dingue. Je me débranche, je me déconnecte. Plus d'internet pendant 3 mois, plus de mails, plus de réseaux sociaux. Disparition, extinction. Mort numérique, appelez ça comme vous voulez. Ras-le-bol d'avoir l'impression d'être devenu l'esclave d'une technologie intrusive. Freiner, ralentir ma vie, écarter l'inutile, voilà mon objectif. Une introspection sans doute un peu maso, mais salvatrice j'en suis sûr. Reconnexion prévue dans 90 jours. Salut.
La tête au carré. Mathieu Vidard.
Digital Détox, comment j'ai vécu 90 jours sans internet. Documentaire à voir ce soir sur Canal+ à 20h50. Pierre-Olivier Labbé, donc c'est vous qui avez mené cette expérience. Vous êtes journaliste et l'auteur de ce documentaire. À vos côtés, donc Jean-Pierre Coutron, vous êtes psychologue clinicien et président de la Fédération Addiction. Et Antonio Casilli, vous êtes sociologue, maître de conférences en Digital Humanities. On le dit comme ça, Antonio ?
Tout à fait.
À Télécom Paris Tech et chercheur en sociologie au centre Edgar Morin de l'EHESS. Les auditeurs nous rejoignent. Les messages franceinter.fr et le mot clé, l'attaque. Pierre-Olivier Labbé, donc pendant 3 mois, vous avez vécu en totale déconnexion en rangeant votre smartphone dans un coffre-fort. Vous faites partie de cette frange de la population hein, qui est technologiquement ultra connectée. Donc c'était l'idée de ne plus vous laisser envahir et de le tester, de l'éprouver, de le raconter.
Encore une fois, c'était l'envie avant tout d'essayer de me sortir de ce flux incessant d'informations sous lequel je croule, mais je crois qu'on croule tous de plus en plus. Et par là même, bien évidemment, même si ce prisme de déconnexion totale et radicale pourrait paraître un peu caricatural, ça servait aussi avant tout à essayer de raconter comment cette révolution numérique a bouleversé nos vies à tous en l'espace de moins de 10 ans. Ouais.
Antonio Casilli, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on reçoit cet individu comme ayant mené une expérience extraordinaire. C'est comme s'il avait traversé l'Atlantique à la rame, quasiment.
Ouais. Et en même temps, voilà, c'est important de rappeler que cette expérience extraordinaire est inspirée par des tas d'autres expériences de ce même type qui ont peut-être effectivement façonné notre manière de percevoir ça. Mais par exemple, je pense à des exemples récents. Il y a un an ou deux, il y avait cette vidéo qui circulait sur Internet qui s'appelait « I forgot my iPhone »,« J'ai oublié mon iPhone ». Et encore plus récemment, une autre vidéo virale qui s'appelait « Look up », »,« Lève les yeux de ton smartphone pour regarder la réalité autour de toi ». Toujours, il y a ce type de discours qui est extrêmement intéressant et même un peu teinté de moralisme, il faut le dire quand même.
Assez peu hein, dans le documentaire, en tout cas. Hein. C'était pas l'objet. Hein.
Non, c'était pas du tout l'objet et encore moins avec une tonalité réac. C'est-à-dire que c'est pas c'était mieux avant et c'est mieux maintenant ou c'est différent. Là, c'était juste d'être dans le constat de ce que ça avait changé.
Ouais. Jean-Pierre Coutron, donc justement, est-ce que ça c'est un problème récent, quelque chose que vous voyez émerger régulièrement dans vos consultations? Cette problématique de l'ultra-connexion.
Ou alors, s'il y a quelque chose dont il faut bien se méfier, c'est ce que les cliniciens voient dans leurs consultations. Ce qui va vraiment le tout petit bout de la pierre. pyramide.
Mais ça dit quelque chose de la société quand même.
Ben oui, ça dit quelque chose de la société, mais ce quelque chose est la toute petite partie par rapport à la population générale. Et, bon. Et la deuxième chose, c'est en vous écoutant, ça confirme quelque chose, pour le coup, que le clinicien voit, c'est que dans ces histoires, alors au sens large, pas au sens maladie, mais dans ces histoires d'addiction, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire que c'est toujours la même histoire qu'on raconte, mais dans des scénarios technologiquement différents.
Ouais, c'est-à-dire qu'il y a
se recentrer temps, sur toi, sur soi, ou se méfier de l'extérieur, ou au contraire, s'enrichir de l'extérieur et réveiller le en soi qui meurt, mais c'est vieux comme l'histoire de notre relation aux
vous
objets.
Vous pensez à quoi, par exemple sur des périodes récentes
par exemple, moi, sur très récemment, il y a un grand classique de la psychanalyse, qui est un pédopsychiatre qui s'appelle Winnicott, qui avait écrit un texte merveilleux sur ce qu'il appelait la défense maniaque. Et la défense maniaque, c'était ce symptôme bizarre de s'endormir le soir en laissant la radio marcher pour ne pas avoir peur de la nuit. Voilà.
Et on est exactement dans la même problématique. Absolument rien n'a changé. Larry, sur Twitter, nous dit ceci. Qu'objecte Pierre-Olivier Labbé à la remarque que le digital détox n'est que du marketing de la culpabilité. Beau, ça, comme formule.
Ce qui est plutôt une jolie formule. C'est pas complètement faux, pris sous un certain angle, ça peut être effectivement considéré comme du marketing de la culpabilité. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a une vraie tendance, plus ou moins lourde aujourd'hui, qui est nouvelle, et qui vient, je pense, du fait que cette révolution numérique est arrivée très très vite, de façon massive, et que je pense qu'on n'a encore jamais pris vraiment le temps de se poser, de regarder ce qui nous est arrivé.
Alors ça, c'est intéressant aussi pour un sociologue, Antonio Casilli, parce que cette révolution, quoi, quand on pense que l'iPhone n'a même pas 10 ans encore, c'est juin 2007 quand même l'arrivée de l'iPhone, la rapidité avec laquelle nous sommes tous engouffrés, enfin je dis tous, évidemment non, ça fait réagir les auditeurs, mais un certain nombre d'entre nous avons adhéré très très vite quand même à ces nouvelles pratiques.
Mais vous faites bien de souligner que c'est pas pour tous d'ailleurs cette question de la digital detox ou alors le fait de se poser la question de se déconnecter, d'arrêter, etc. Est un problème, je vais le dire comme ça d'une manière directe, un problème de riches, c'est-à-dire un problème de certaines parties de la population et surtout de certains pays, alors qu'on sait très bien que l'usage des mobiles se répand partout et partout dans le monde, mais en fait cela reste encore une fois très ancré comme exigence de la déconnexion à certains milieux professionnels, à certaines tranches d'âge et surtout reste extrêmement lié à la vie professionnelle. Oui. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose qui laisse de côté, comme la vie professionnelle, on le sait, l'emploi est inégalement distribué, on va le dire comme ça d'une manière un peu. Voilà, on se retrouve aussi face à des personnes qui ne sont pas concernées de la même manière.
Voilà, Pierre-Olivier Labbé étant l'incarnation de cette profession de journaliste qui est évidemment ultra connectée aussi, principalement pour des raisons d'information régulière et de mise à jour de l'actualité.
Mais d'autres professions sont aussi concernées. On parlait du marketing. C'est effectivement du marketing qui passe par Internet et passe, par exemple, par le fait de faire transformer Digital Detox dans une hashtag. Voilà, c'est...
Jean-Pierre Coutron, 41% des internautes français auraient du mal à se passer d'Internet plus de 3 jours. Il y a quand même des enquêtes qui montrent que dans une grande majorité, quand même, il se passe quelque chose. 3/4 des Français ne peuvent s'empêcher de se connecter avant de dormir ou dès le réveil. C'est 3/4 des Français.
Et alors ?
C'est beaucoup quand même, non ? C'est pas si marginal que ça.
Et alors, je pense que si on s'amusait à regarder, il y a plein de comportements. Combien de Français prennent leur voiture dès le matin ? Non, mais c'est-à-dire, ou combien prennent un transport en commun dès le matin ? C'est-à-dire que je pense qu'il faut.
Mais là, pour être connecté, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'appareil.
Mais il faut avoir l'appareil. Alors, pour le coup, je ne peux à nouveau caler que du côté du sociologue. Je suis pour l'instant frustré dans mon identité. Mais il y a quelque chose de vrai là-dedans.
On a des questions pour vous.
C'est-à-dire qu'avant de s'en priver, il est difficile de résister à une pente naturelle qui est une pente culturelle, sociétale. Donc, j'ai comme un certain nombre d'entre vous des enfants. Je suis en permanence, en paradoxe, en train de leur dire ne sois pas un hyper connecté et de m'agacer quand ils ne répondent pas à ma sollicitation, parce que là, je voudrais qu'ils répondent, parce que je suis comme tout le monde, habitué à ce que la réponse vienne maintenant beaucoup plus vite par rapport au temps de questions. Juste, par exemple, Olivenstein disait, la drogue aujourd'hui, c'est plus fort, plus vite. Hein, et ben, culturellement aujourd'hui, beaucoup de choses sont beaucoup plus fortes, et alors le plus vite, n'en parlons pas, on est dans l'instantanéité. Donc si on avait gardé cette définition de la drogue, énormément de choses seraient devenues des drogues. Donc calmons-nous là-dessus.
Alors la jeune génération, justement, Pierre-Olivier Labbé, vous l'avez rencontré, ce qu'on appelle les digital natives, hein, pour ceux qui sont nés vraiment au cœur de cette révolution numérique, deux jeunes filles en particulier, on les entend, elles sont dans leur chambre.
Oui.
Les filles.
Bonjour, ouais.
Ça va ?
Ça va.
Les filles, c'est quoi la pire punition qu'on pourrait vous infliger aujourd'hui ?
La pire ? Déjà, quand on n'a pas Internet, c'est dur, super dur.
Déjà, quand t'as pas de téléphone...
Ouais, tu peux pas parler.
On dirait que t'es...
Ouais, d'enlever tous les écrans.
En fait, t'as pas
que des livres devant toi.
Vous arrivez à discuter avec combien de personnes en même temps ?
Ah, beaucoup, hein.
Genre
10 maximum pour moi.
Et t'arrives à avoir 10 conversations en même temps?
Bah oui, au moins.
C'est facile d'avoir 10 conversations.
Ouais, parce qu'il y a beaucoup
pendant
de gens connectés.
Pendant qu'il y en a un qui répond, tu vas sur une autre fenêtre.
Ouais.
Ça fait un an et demi que tu as ton portable, le nouveau portable.
Ouais.
Avant, elle était très très bonne en cours. Maintenant, bon, bah, moins.
Bon,
avant, elle lisait énormément aussi.
Et tu crois que c'est lié ou pas?
Ouais, bah, totalement,
totalement.
Maintenant, elle se met des anti-cernes pour cacher les cernes.
Moi, je dis, c'est pas
vrai. Tu te lèves avec des cernes?
Non, pas forcément. Bah, si, ouais. Mais après, je me couche pas si tard que ça. Hein. Bah, alors, maxi, c'est 23h30. Mais quand j'ai cours, je dépasse pas minuit.
Voilà, Jean-Pierre Coutron, minuit pour ces jeunes adolescentes, ce sont des heures de sommeil en moins quand même.
Alors je vous renvoie aux travaux de François Beck et de l'OFDT et de l'INPS, l'Office français des droits et des toxicomanies, ou l'INPS, l'Institut national de promotion et d'éducation dans la santé, qui montre qu'effectivement c'est une des choses qui est le plus connotée, l'utilisation de ces nouvelles technologies et la réduction du temps de sommeil. Voilà, c'est un paramètre là, objectif qu'on peut avoir. Le temps pris est pris sur le sommeil. Le deuxième
avec
paramètre...
Avec des conséquences.
Avec des conséquences.
Quand
le
même,
deuxième paramètre, mais vous l'abordez, c'est l'effet stimulation électrique, pour le dire très simplement. C'est-à-dire qu'on s'endort plus facilement quand on a pris un livre, on laisse plus facilement tomber le livre de ses mains pour s'endormir, qu'on ne laisse tomber une connexion. Et en plus, dans les connexions, il y a des gradations, il y a des programmes qui excitent particulièrement. C'est l'histoire de prendre le café le soir.
La fameuse lumière bleue qui est émise par les outils.
Voilà, hein, donc ça c'est un paramètre effectivement qui est à prendre en compte.
Antonio Casilli, chez ces jeunes adolescents, hein, est-ce que là il y a une ultra-connexion qui est liée à leur génération, ou là encore c'est une idée reçue?
C'est une idée reçue. Hein,
allez, une de plus.
Voilà, la question
on les enfile cet après-midi.
La question est que depuis l'année 2001, à un certain moment, on a commencé à utiliser la formule de digital natives, elle était très utile, et après à un certain moment on s'est rendu compte que d'un point de vue empirique, elle était creuse. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de données qui validaient l'existence d'une nouvelle génération qui serait plus connectée que les autres, qui aurait l'usage de certains dispositifs d'information et de communication vraiment inscrits dans l'ADN. Au contraire, cette connectivité est inégalement distribuée, elle aussi. C'est-à-dire qu'on voit très bien que certains usages ne sont pas répandus, par exemple dans les classes populaires, de la même manière. Et de l'autre côté, surtout, on ne voit pas un changement radical par exemple des manières d'apprentissage ou des rythmes, à l'exception évidemment de ce constat qu'on a fait de la diminution du temps de sommeil. Et là, comme justement l'addictologue a pris la casquette du sociologue, moi-même
c'est formidable,
peut ajouter un autre élément, c'était effectivement l'avis de l'Académie des sciences médicales nationale des sciences médicales de 2012 qui disait qu'effectivement il y avait cette diminution du temps de sommeil, mais qui en même temps cela ne constituait pas un facteur de création d'addiction. Il n'y a pas de dépendance de ce point de vue-là.
Allez, bienvenue au pays des idées reçues. C'est le tout au carré. On se rejoint dans un instant. Beaucoup de messages pour vous. Je vous les transmets bien sûr, franceinter.fr. Les messages courts sur le mot-clé l'attaque.
Si nous portons ainsi notre visage, c'est pour qu'il soit un jour aimé. Ce serait quand même bien dommage qu'il ne soit plus jamais caressé. Même s'il a connu des carambolages et qu'il en est sorti cabossé, il a quand même passé l'âge d'aller le soir se faire désirer. l'attend, on l'attend. Je ne sais où, je ne sais quand. On l'attend, on l'attend. Dans quel virage, à quel tournant? Si nous portons assis notre visage, ce n'est pas par pure vanité. Il faut quand même un certain courage pour aller comme ça. Il a vu tant d'oiseaux dévorer la cage. Il a vu tant de couples se déchirer. Il va partir à l'abordage, à la recherche de sa moitié. On l'attend, on l'attend. Je ne sais où, je ne sais quand. On l'attend, on l'attend. Virage, à quel tournant? On l'attend, on l'attend. Je ne sais où, je ne sais quand. On l'attend, on l'attend, on l'attend.
Samedi soir au Vauban, la voix de Miossec.
La tête au carré sur France Inter.
Digital Detox Canal Plus, donc ce soir 20h50 avec nos invités Pierre-Olivier Labbé, donc vous verrez incarner ce journaliste qui décide de passer 90 jours hors d'internet, Jean-Pierre Coutron, psychologue clinicien, et Antonio Casilli, sociologue. Vos messages nombreux, franceinter.fr, et le mot-clé l'attaque. Jean-Pierre Coutron, on parlait tout à l'heure de ces nouvelles habitudes, est-ce qu'on voit des choses dans le cerveau là aussi? Est-ce que les neurosciences ont des réponses à nous apporter? Est-ce qu'il y a des mutations importantes qui seraient déjà observables?
Alors là, vous continuez de me frustrer parce qu'effectivement, je ne suis pas un spécialiste des neurosciences, donc mais on travaille.
Vous avez réponse avec, à
non,
tout.
Non, mais on travaille. Oui, mais c'est après on se fait attraper sur les idées reçues. Hein, et je ne suis pas un spécialiste de tout. Non, c'est en tout cas c'est quelque chose sur lequel on travaille et il y a une volonté de documenter ça. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est des niveaux de performance. Qui ont changé. Alors, c'est-à-dire qu'on a une capacité à se connecter, traiter plusieurs informations en
ce
même
qu'on
temps.
Voyait tout à l'heure,
le fameux schéma classique des parents ne fait qu'une chose à la fois, reste concentré, même dans les classes prépa.
Ah, mais ça vole en éclats.
Voilà,
hein.
Même dans les classes prépa que vous fréquentez, mon voisin sociologue, un jeune très bien structuré va avoir son téléphone branché, un morceau de musique en même temps, et pourtant travailler. Donc on voit ça. Est-ce que ça se traduit?
Ou déjà par une modification anatomique,
voilà, par des modifications anatomiques, avant d'aller dans l'anatomique, de fonctionnement, de connexion. Pour l'instant, c'est prématuré.
Tôt.
On c'est commence à travailler.
Tôt.
Voilà, hein, c'est une piste. Alors, ce serait une piste fantastique. Hein, c'est-à-dire que quand on fait non pas des idées reçues, mais de la science-fiction rétrospective, c'est la disparition de l'odorat chez l'être humain par rapport à l'animal. Et là, donc, des fonctions disparaîtraient et des nouvelles fonctions apparaîtraient. Mais ça se passe sur des temporalités beaucoup plus grandes que les 10 années d'hyperconnexion.
Pierre-Olivier Labbé.
Est-ce que vous ne pensez pas tout simplement que ces mômes, donc nés avec Internet, développent tout simplement des capacités psychologiques, psychomotrices, qui tout simplement leur seront utiles dans le monde de demain?
Ah mais pour moi, une des réponses, c'est juste un problème d'acculturation.
Antonio Casilli.
Et moi je dirais même d'entraînement et si vous voulez même de formation. Là on revient à la question de pour quelles raisons les plus jeunes sont caractérisés comme des natifs du numérique, parce qu'ils subissent une injonction à se connecter de la part des parents, de la part des éducateurs. Les mêmes parents, les mêmes éducateurs qui les stigmatisent de l'autre côté. Du coup, le paradoxe est total. Le type d'injonction est paradoxal. Et pourquoi ils reçoivent ce type d'injonction? Bah justement parce que, et ça fait vraiment des décennies qu'on le fait, et bah, il faut être bon en informatique, je mets ça entre beaucoup de guillemets, parce que ça va t'aider dans ta vie professionnelle. Ouais. Là, on revient toujours à la question de la centralité du travail, finalement, et de l'emploi et de la formation de la force de travail, et finalement, le fait que ces usages là, même si on les vend comme des usages liés à l'entertainment, à l'industrie culturelle, à la formation de soi, etc. Après tout, ils forment les professionnels de demain. Et ces professionnels de demain sont invités, soumis à une injonction véritable, à se connecter, voire à se hyper-connecter de leur plus jeune âge. Et je répète, c'est un truc très ancien. Même les gens de ma génération, donc les gens d'une quarantaine d'années, ont vécu ce moment, un moment avec les années 80, de l'essor de la micro-informatique, dans lequel, voilà, justement, on disait, il faut être bon en informatique. Et même si on regarde ce qui se passe au niveau de l'école, on en est maintenant au 15e plan national du numérique pour la France. D'autres pays sont encore plus avancés, donc ça fait effectivement longtemps.
Alors, pas vraiment d'effet sur le cerveau, en tout cas pour l'instant, hein, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais des effets, en tout cas, sur notre attention, sur notre capacité de concentration, c'est ce qu'on voit dans le documentaire. Pierre-Olivier Labbé, vous êtes rendu à la Cité des Sciences, au laboratoire des usages en technologie de l'information numérique, où on y pratique l'oculométrie cognitive. C'est Thierry Bassino, professeur en psychologie cognitive, qui va vous tester.
Donc on va faire un test de lecture, et l'idée c'est d'essayer de voir si votre compréhension, votre mémorisation va être perturbée par certains événements qui arrivent, souvent des publicités qui arrivent sur les pages de web. Pour cela, je vais enregistrer en fait les mouvements de vos yeux. Donc il y a un appareil sous l'écran.
Que je vois là, c'est
ça ? Voilà, que l'on appelle un eye tracker en anglais, un oculomètre en français, qui va mesurer en temps réel, toutes les millisecondes, la position de vos yeux.
Eh bien, je souhaite démarrer.
Thierry me demande de lire un petit article de presse sportive sur une page web classique, avec à droite de l'écran une fausse pub qui clignote et qui va sérieusement me perturber.
Quel est le thème du texte ?
Du football. Alors, il y a un score.
Oui.
2-1, je crois, ou 1-2.
2-1.
2-1. Je ne peux pas vous dire s'ils ont gagné ou s'ils ont perdu.
En fait, ils ne sont pas encore joués. Vous n'avez pas une lecture là, de type lecture traditionnelle, gauche-droite au bas ? Là, vous faites vraiment une sorte de picorage, quoi, on parle de saccade oculaire, donc les mouvements des yeux que vous allez faire sur la publicité vont interrompre cette compréhension. Et bien cette interruption, on sait qu'elle est nocive, elle est vraiment négative pour la mise en mémoire du texte.
Alors, Jean-Pierre Coutron, ça vous parle, l'oculomètre, hein, avec ses saccades oculaires, justement ?
Oui, ça me parle. Et la dernière remarque me parle aussi, parce qu'on dit que c'est gênant pour la mise en mémoire. Et un certain nombre de jeunes vont vous dire aujourd'hui, mais pourquoi veux-tu que je traite la mémoire avec les mémoires informatiques de la même façon que tu traitais toi, quand il n'y avait pas l'Internet pour mémoriser ? Et donc, dis-moi ce dont j'ai besoin, c'est de savoir comment chercher, et pas forcément de mémoriser avec le même savoir-faire. Je trouvais très intéressant, vous avez deux, trois fois dit attention à ne pas avoir une nostalgie ou une vision passéiste en disant c'était mieux avant.
Ah, du tout.
Et de poser ça en disant c'est un effort d'adaptation. Voilà, donc je suis intéressé de voir apparaître des nouvelles compétences et pas forcément terrorisé de voir disparaître un rapport soi-disant idéal à la connaissance, à la mémoire, à l'apprentissage.
Antonio Casilli.
Et en même temps,
même analyse
oui, j'ajouterais même une couche en disant que ce type de, quand même de nostalgie passéiste, on la voit ressurgir malgré nos meilleures intentions, vos meilleures intentions de ne pas y tomber dedans. Parce que si on regarde bien où est-ce qu'on va quand on se déconnecte, à part ce petit passage où vous faites évidemment chez l'oculomètre, il y a après tout un moment, je crois comprendre, dans le documentaire, dans lequel finalement vous partez à la campagne, finalement. Et donc il y a ce moment de récupération d'un idéal champêtre, idyllique.
Cet homme est parti en Lozère sans GPS. Imaginez cette expérience inouïe quand même.
Juste le sevrage.
Le vrai exploit.
Ça avait promis. Mais en même temps, ça fait partie de l'un des, si vous voulez, des topoïs littéraires de la déconnexion.
Un fantasme du 21e siècle, c'est ça, le retour sur soi, le retour à la Terre.
Pas forcément du 21e siècle, parce que justement, c'est peut-être la plus ancienne, le plus ancien de nos fantasmes, c'est toujours le décalage entre le otium et le négotium des latins. Donc le moment où on se consacre à l'activité sociale, le négotium, et après, le osium, c'est le moment où on se consacre à nous-mêmes, à la construction de nous.
C'est l'objet du film, parce que ça dure 90 jours précisément. Alors ça commence effectivement avec cette petite cure champêtre en Lozère. Et là, tout de suite, vous éprouvez quand même un bien-être particulier, Pierre-Olivier Labbé. C'est-à-dire que vous reprenez un bouquin, ça vous est pas arrivé depuis longtemps. Vous respirez, vous vous ennuyez. Un truc dingue, là aussi.
Je réapprends à m'ennuyer, à prendre mon temps et à le perdre. Et c'est pas désagréable de perdre son temps. Et c'est vrai que ces objets qu'on utilise tous et très souvent dans des moments d'inactivité, je cite souvent l'exemple d'une file d'attente ou d'un quai de train ou de métro, où ces moments qui servent de prétexte systématique à dégainer. Et en fait, c'est cette addition et cette somme cumulée de petits moments sur une journée qui font finalement le temps global d'utilisation. Et retrouver ces petits temps qui peuvent être très courts, ces 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, c'est pas désagréable.
Ouais, Jean-Pierre Coutron, un message de Rachou Bidou sur Twitter. Quels sont les signes annonciateurs d'une dépendance à l'ultra-connexion ?
Je suis incapable de vous les donner. Comme à une époque, j'étais incapable de répondre honnêtement à est-ce que mon fils fume du cannabis ou pas. Non, c'est tellement général. C'est-à-dire, c'est une série. Je peux vous en, je pourrais vous en énumérer l'énervement, la fatigue. Les signes sont tellement généraux que vous vous dites comment peut-on mettre ça comme étant les signes. Puisque les grands signes discriminants, le manque, par exemple, en tant que tel, n'existeraient pas. Voilà. Ce qui me paraît intéressant, plutôt de chercher le signe, mais de dire que de l'autre côté, ça interroge une culture de l'excès. C'est-à-dire aujourd'hui, un paradoxe qu'on peut avoir, et dans votre expérience, je voyais plus quelque chose de reprendre la mesure ou reprendre le contrôle que de l'abstinence, et plus quelque chose qui fait contrepoids, qu'on connaît bien dans les addictions avec l'apparition du binge, l'apparition d'un certain nombre de phénomènes, alors qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de villes, et ça va pas tarder à arriver à Paris, la mode redevient des soirées sans alcool, y compris dans des lieux hyper modes, hyper pointus. En Suède, ça a démarré, comme c'est là qu'a démarré le binge, on peut penser que ça va revenir. Et on voit que ça répond à une culture de l'excès. C'est-à-dire, c'est moins l'objet qui est en cause que le rapport que l'on a derrière avec un certain nombre d'objets qui va systématiquement du côté du trop. Et ça interroge, pour le coup, un fondement culturel plus qu'une psychopathologie.
Totalement d'accord. Ce qui est incroyable, ce sont les grandes entreprises, justement, des nouvelles technologies qui sont souvent à l'origine aussi de ces mouvements de désintoxication.
Absolument. C'est l'élément paradoxal qui a déjà été souligné et qu'effectivement, à chaque fois qu'on a affaire à ce discours de la détox, on a affaire aussi à une énorme campagne virale. Et là, finalement, c'est vraiment paradoxal au point que je dirais, le parallèle est si on voulait faire une partouze pour inciter les gens à la modération sexuelle. Donc voilà, c'est un peu le même principe de ces grandes... Bon, je ne parle pas d'un documentaire qui passe sur Canal+, parce que là, évidemment, l'effet viral va être moins fort, mais quand même, là, c'est assez absurde comme situation.
On reste sur cette formule, qu'on va méditer, on se retrouve juste après. Living isn't easy when you've been free and it's taken away. I will lay my head down till some sense has been found. I'm hardly known in this neighborhood, but I can't help feeling like I've been misunderstood. Right to my bones, yes, my sin you should. Feel this ground is breaking, nothing is there underfoot. Living isn't easy when you've been free and it's taken away. Comes like I hoped it would. Love has overcome things I didn't know that it could. Living isn't easy. Taken away. Solace et ses Fife à l'instant sur France Inter.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Digital Détox ce soir, Canal Plus 20h50 avec Pierre-Olivier Labbé, Jean-Pierre Coutron, donc psychologue clinicien, et le sociologue Antonio Casilli. Tous vos messages nombreux, franceinter.fr, et vous avez pu constater, Pierre-Olivier Labbé, à quel point ce sujet était quand même assez concernant, non ?
C'est assez étonnant la façon dont j'en parle autour de moi depuis un bon moment maintenant, parce que c'est un sujet sur lequel je travaille depuis plus d'un an. Et ce qui est étonnant, c'est la façon dont tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, s'approprie le sujet immédiatement. Et en fait, ça met, je crois que ça nous met face à notre propre comportement numérique, en l'occurrence.
Et il y a beaucoup de souhaits de déconnexion aussi dans les propos que vous recueillez ?
Alors, pas à hauteur de ce que j'ai fait, encore une fois, ce prisme est totalement, est totalement radical. En revanche, il y a des vraies envies de déconnexion, de temps de déconnexion, qui peuvent être d'une heure, enfin qui peuvent être le temps d'un dîner avec des amis, ou qui peuvent être le temps d'un week-end en amoureux avec sa nana.
Antonio Casilli, qui a inventé la déconnexion au fond ?
Qui a inventé la déconnexion ? Bon, évidemment, c'est quelque chose de récent, parce que c'est quelque chose qui a fait surface dès qu'on a arrêté de parler de fossés numériques, hein, donc quand on a commencé à se préoccuper de trop de connexions, donc c'est quelque chose qui s'impose en tant que catégorie vers la fin des années 2000, mais en même temps, l'écho est avec une notion qu'on a hérité, figurez-vous, de la scientologie. Donc c'est la scientologie qui a introduit dans les années 60-70, paraît-il, parce que c'est assez secret évidemment, sectaire et secret, le mot de disconnection pour indiquer le fait de couper les liens avec les gens qui font partie de son milieu pour se consacrer au développement spirituel via la scientologie. Et donc des échos de ça ont pénétré la culture de la Silicon Valley et par la suite ont pénétré le discours actuel.
Bruno sur franceinter.fr nous dit: un des problèmes pour moi est que les entreprises ne sont pas assez sensibilisées à la surcharge d'informations. Pas de consignes sur les emails, les replay all, on appelle ça comme ça,
replay all.
Pour rien faire la différence entre de l'information à placer sur l'intranet et des demandes justifiées. Alors justement, Pierre-Olivier Labbé, vous avez assisté à une réunion de la CFDT sur le problème de la surabondance de mails dans l'entreprise. On va entendre dans cet extrait Jérôme Chemin, qui est justement secrétaire national CFDT cadre.
La problématique, c'est que la personne se sent submergée, c'est qu'elle ne reçoit pas 300 mails par jour, c'est qu'elle reçoit 300 mails auxquels elle doit répondre dans la journée. Et c'est ça qui est très compliqué, très difficile.
Alors vous avez dicté une plaquette,
voilà,
à la CFDT.
Droit et devoir de déconnexion.
Voilà. Quels sont les grands points de ce droit et devoir à la déconnexion ?
C'est-à-dire le droit à la déconnexion, c'est le salarié qui a le droit de ne pas se connecter à sa boîte mail à 23h, à répondre aux mails, etc.
Et ça ne peut pas lui être imputé comme une faute ?
Ça ne devrait pas.
Ça ne devrait pas.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est toute la problématique. J'ai eu le cas d'un salarié. Vous avez un manager qui envoie un mail à 23h à 5 personnes. Moi, salarié, je prends la décision de ne pas répondre. Je dis voilà, moi je lui répondrai demain. Puis il y en a un autre, lui par contre, qui va répondre à 23h08. Les autres, non, ne vont pas répondre.
Mauvais élève, bon élève.
Voilà. Le manager va dire non, mais j'en tire pas compte. Par contre, qu'est-ce qui va ressortir dans son évaluation ? Toujours disponible. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que chaque salarié est pollueur aussi. C'est-à-dire que, certes, j'ai le droit de ne pas me connecter, mais à partir du moment où je me connecte, charge pour moi aussi de ne pas aller polluer les autres.
C'est-à-dire quand... sans fin, donc.
Mais c'est sans fin. Mais oui, c'est-à-dire qu'il faut que chaque salarié prenne aujourd'hui conscience qu'il a un droit à la déconnexion, il a aussi le devoir, lui, de ne pas se connecter vis-à-vis des autres.
Voilà, vos réactions, celles des auditeurs aussi. Émilie, sur le même thème, nous dit par mail: Internet, c'est mon outil de travail, utile et pratique, mais il peut être intrusif et envahissant. Le problème réside dans la présomption de disponibilité permanente. Mais il existe un outil magique, le message d'absence. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre Coutron ?
Moi, ça m'évoque une expérience personnelle, enfin deux choses. Le premier patient que j'avais vu arriver, on blaguait de ça en début d'émission, donc c'est un cadre, responsabilité importante dans une entreprise, et qui vient donc dans un centre de soins, entre guillemets, pour toxicomanes, alcooliques, drogués au sens large, hein, ce qu'on appelle les centres d'addictologie aujourd'hui. Il vient un peu honteux en disant « c'est ma femme qui me demande de venir ». De loin, il vient comme vient un malade alcoolique. Hein. Et assis dans le bureau, il finit par dire « mais je viens pas pour les autres comme pour les autres. Je viens parce qu'elle trouve que je n'arrive pas assez à couper avec mon téléphone et que je réponds plus vite aux demandes professionnelles qu'aux demandes familiales. Voilà, donc c'est le point de départ. Et au même moment, un collègue vient me demander une préface. Il a écrit un livre qui s'appelle Pousse, vous pourrez le regarder. C'est un cadre hein, qui témoigne, qui écrit sur ce qu'il aimerait être une culture un peu plus équilibrée du numérique dans l'entreprise. Et de le voir arriver dans ce double regard, pour moi, ça a été extrêmement parlant. Pour faire très vite, le premier monsieur, ça s'inscrivait quand même sur une histoire personnelle. C'est-à-dire qu'être allé jusqu'au centre de soins, ce n'était pas tout à fait un hasard, et ça s'inscrivait dans une histoire personnelle. Et dans l'autre domaine, et j'entendais ça dans ce qui était donné là, dans le reportage, c'est une organisation du travail et la capacité à réinterroger l'organisation du travail. Et je crois qu'il faut qu'on soit capable de dissocier les deux et de ne pas se servir de l'un pour parler de l'autre ou lisser de l'autre.
Ouais. Antonio Casilli, il faut mettre au point des mesures interdisant l'intrusion numérique dans nos ordinateurs.
Bon, c'est extrêmement tentant de trouver des solutions magiques, mais en même temps, malheureusement, on perd toujours l'un des termes de cette équation-là. Par exemple, dans le petit extrait qu'on a écouté, on a beaucoup insisté sur la mail et donc les entreprises effectivement cherchent à limiter l'usage des mails. Et en même temps, on oublie que depuis 10 ans, on a une transformation radicale des usages numériques sur le lieu de travail par le BYOD, donc Bring Your Own Device. Le fait que le salarié apporte son propre smartphone, tablette, etc. Et donc, on peut bien bloquer l'accès aux mails pendant le week-end, pendant le soir. Le fait est que si mon chef veut se mettre en contact avec moi, il va m'envoyer un texto ou passer par d'autres canaux de communication. Et donc, le fait qu'on vive dans un système dans lequel on fait constamment non seulement du multitasking, donc plusieurs tâches en même temps, mais aussi du multichanneling, donc plusieurs canaux de communication toujours ouverts, rend ce type de blocage assez difficile. Et j'ajouterai aussi que l'un des éléments qui me paraît particulièrement difficile à avaler, c'est toujours cette caractérisation du salarié en tant que coupable. On l'a dit, donc ce cadre que vous avez interviewé, caractériser les salariés comme des pollueurs. Et là, c'est une manière extrêmement intéressante et en même temps dangereuse, que je trouve, de diaboliser l'utilisateur en mettant la responsabilité d'un problème systémique, donc la culture de l'urgence sur le lieu de travail, un problème systémique, la responsabilité est la tienne pour salarié, si tu n'arrives pas à gérer, si tu n'arrives pas à... Et donc derrière, je vois aussi ce type d'idéologie.
Elle n'est pas que la tienne, elle est à chacune d'entre nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en Allemagne, pour ne citer que ce pays où l'industrie automobile est ultra puissante, ils envisagent même une loi, ce qui est absolument pas du tout prévu en France. Les syndicats en France ne sont pas du tout pour, donc c'est pas à l'ordre du jour. En Allemagne, il est prévu qu'a priori avant la fin 2015, il pourrait y avoir une loi qui encadre l'usage du mail en entreprise. Et justement, notamment...
C'est à méditer, en tout cas.
Justement, notamment avec des créneaux où il serait totalement impossible, puisque les serveurs bloqués, d'envoyer un mail.
Jean-Paul nous dit, la seule vraie déconnexion qui me semble simple, indispensable et hygiénique, c'est la déconnexion nocturne. Je n'ai jamais compris les gens qui restent systématiquement connectés et joignables, même pendant leurs heures de sommeil, folie égotique.
Mais enfin, c'est vrai que c'est insensé. Non, mais il y a aussi le quantified self. Donc, de l'autre côté, il y a d'autres dispositifs qui nous obligent à rester connectés pour faire de monitoring de notre sommeil.
Oui. Pierre-Olivier Labbé, 90 jours plus tard, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez ouvert votre coffre-fort et vous êtes rué comme un malade sur votre téléphone portable.
J'ai réouvert les tuyaux. Mais
comme un type qui n'avait pas pu avoir sa cam pendant 90 jours.
C'est pas complètement faux.
Vous étiez dans un état, mais c'est
dingue, j'étais content de retrouver mes jouets.
Voilà. Et vous avez recommencé de plus belle.
Et j'ai pas recommencé de plus belle. J'ai pas recommencé de plus belle. Je voudrais juste préciser quand même que très vite, avec Pierre-Louis Linco, mon co-réalisateur, on a distingué deux formes d'Internet. L'Internet pratique, utile, l'accès à la culture, la connaissance, à l'information, qui n'a absolument rien à voir avec l'Internet social. Il y en a un qui manque très très vite, parce qu'aujourd'hui, notre société s'est organisée autour de ça et de sa praticité. Et ça, pour le coup, c'est une vraie révolution. L'Internet social m'a manqué
sur la longueur. Et j'ai senti une vraie désociabilisation. Et c'est vrai qu'au bout de 90 jours, encore une fois, et je pense que c'est lié au milieu dans lequel je travaille, dans lequel j'évolue, bien évidemment, j'étais vraiment content de retrouver ça.
Mais parce vous aviez quand même un téléphone, hein, vous aviez le dumbphone, ça, vieux téléphone, où on peut envoyer des SMS. 90, voilà, il faut 3 minutes pour envoyer un texto, hein, en gros. Parce qu'on n'a plus l'habitude.
On n'a plus l'habitude.
Voilà, Digital Detox, donc ce sera ce soir sur Canal+, à 20h50. Jean-Pierre Coutron, Antonio Casilli, merci beaucoup d'être venu dans cette tête au carré. Merci aux auditeurs nombreux à nous envoyer des messages. Vous pouvez poursuivre d'ailleurs vos commentaires en ce moment sur le site de l'émission. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Dans un instant, affaire sensible et une affaire aussi au cœur de l'émission.
Oui, une affaire récente, Claire Stream. Et notre invité, ce sera Denis Robert. Vous savez, ce journaliste qui a révélé l'affaire, qui s'est retrouvé sur le bord des prévenus. Il était relaxé, hein. Enfin, lors du procès tout de même.
Et
il sera là.
Après les infos, merci.